Et bonjour à toutes et tous, nous sommes au salon de Nuremberg dans le stand de Cocktail Games en compagnie de Mathieu Despenoux. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors Mathieu, on est l'avant-dernier jour du salon. Vous venez de passer 5 jours à faire de la démonstration de jeu. Un petit bilan comme ça en 20 secondes sur le salon de Nuremberg.
Le salon de Nuremberg, c'est l'occasion de confirmer nos contacts avec les distributeurs export, de leur présenter nos nouveautés. Et puis on accroche toujours quelques nouveaux pays pour essayer de localiser des fabrications à des endroits où on n'en a pas encore.
Donc au niveau européen, vous êtes quand même assez bien représenté. Ça veut dire qu'on essaye quand même de passer les frontières de l'Europe maintenant ?
Oui, on essaye. Voilà, on a un joli contact avec des Australiens. On espère que ça se fera. Et puis après, sur le marché américain, on travaille plutôt en licence avec des gens comme Game Right, Blue Orange, etc.
Game Right qui est quand même un partenaire de longue date.
Exactement.
Et justement, par rapport à des exports en Australie, éventuellement même en Asie, les jeux ont un accueil similaire, sans besoin de modification, on va dire, vraiment.
Alors, sur les marchés européens, on peut sans problème en fait utiliser nos packagings. C'est pour ça que la règle générale, c'est qu'on fabrique en Europe et on fait de la licence, c'est-à-dire le droit d'exploiter l'idée en dehors de l'Europe. Pourquoi ? Parce que nos petites boîtes pour le marché américain ne sont pas du tout adaptées. Ils aiment beaucoup faire du plein avec du vide, en fait, et nous, c'est pas trop notre truc. Donc il y a des changements de format qui sont faits à l'initiative de l'éditeur avec qui on signe une licence.
Ça veut dire quoi ? C'est lié à un marché, votre marché américain ? Les étalages sont plus grands, il faut des plus grandes boîtes ?
Le marché américain, je pense que c'est le consommateur américain, de mon point de vue, enfin, c'est un raisonnement très basique. Aime bien en fait les gros emballages. Il suffit d'aller dans un supermarché pour se rendre compte les jus d'orange qui partent des packs de 5 litres, etc. Dans le domaine du jeu, c'est un petit peu la même chose aussi. Et on a déjà des jeux qui sont sortis là-bas et dont le packaging fait 4 à 5 fois en fait la taille de nos petits jeux.
C'est ce qu'on a vu par exemple sur Dweebies ou. Dweebies venait de Game Right, par exemple.
Oui, mais Dweebies, c'est la même. Dweebies, c'est la même taille. Mais par contre, on a donné une licence pour Hitman Bullet à un éditeur qui s'appelle Playroom. Le jeu s'appelle We Will Rock You aux États-Unis. Et là, on a une boîte qui est 4 fois plus grande.
Avec le même nombre de cartes, c'est exactement le même.
Exactement le même nombre de cartes, c'est exactement le même jeu, les cartes de même format, etc. Un gros système de calage à l'intérieur pour pas que le paquet bouge trop.
Oui, c'est ça.
Et voilà.
C'est pas un jeu de poche, d'office. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est plus logique pour une société comme Cocktail Games de vendre sur base de licence.
Oui, surtout quand on ne connaît pas un marché. Et puis surtout, je n'ai pas tellement d'autres choix. Alors qu'en Europe, on travaille avec des distributeurs, certains depuis plusieurs années. Et chaque année, on leur présente nos nouveautés. Ils enrichissent la gamme de 1 ou 2 jeux par an. Voilà, donc en Italie, on a 6 jeux. En Allemagne, on en a 8. En Pologne, on en a 4. Et chaque année, on leur présente une, deux ou trois nouveautés. On ne fait pas le forcing pour qu'ils nous prennent des nouveautés. C'est vraiment eux qui choisissent. Et on essaye de sortir des jeux qui puissent aussi fonctionner en dehors des frontières hexagonales.
Et sans rentrer dans les détails des chiffres, une licence qui se revend, comment est-ce que l'auteur, par exemple, est rémunéré par rapport à cette vente ?
C'est assez simple. Donc généralement, une licence, c'est... On signe un contrat avec l'éditeur à qui on donne une licence. Ils nous rémunèrent le plus souvent à hauteur de 10% du chiffre d'affaires facturé, qui n'est pas le chiffre d'affaires du prix public du jeu, en fait. Hein, c'est, et là-dessus, on rétrocède 50% de ce qu'on va toucher à l'auteur. Voilà, c'est contractuel. Donc, ce n'est pas une mauvaise opération pour un auteur. C'est même, dans certains cas, plus intéressant en fait, que du droit d'auteur sec sur une édition française ou européenne. Voilà.
Pas mal. Détail intéressant.
C'est la règle générale. Hein. Après, il peut y avoir des variations entre 60 et 40%. Mais on est souvent sur du 50-50. Enfin, nous, on est dans nos contrats sur du 50-50.
Donc, alors, passons à travers l'actualité donc 2012 de Cocktail Games, puisqu'on va même aborder des jeux qui sont... on n'est plus trop dans le prototype, mais c'est clair qu'ils vont sortir même à Essen. On va commencer avec un jeu qui s'appelle Ces années-là, qui est un jeu qui existait déjà, qui est dans la logique de compatibilité, où on revisite quelque chose.
Alors, Ces années-là, c'est un jeu qui avait été édité en France par Hasbro en 1991. Et c'est un jeu qu'on a fait à l'initiative de BlackRock, qui est aussi un éditeur de jeux, et qui nous a amené sur un plateau ce jeu. Il nous a demandé si on souhaitait le faire en codition. On l'a testé, on l'a joué, on a apprécié, et on a décidé de refaire complètement le jeu. C'est un jeu sur lequel il y a beaucoup de développement parce que c'est un jeu de questions, on va dire ça comme ça, sur des dates. Et donc, il y a un contenu qui couvre les années de 1970 à 2009. Donc, il y a 2760 questions liées à des dates et dans tous les registres, littérature, cinéma, chansons, sport, etc. Et l'intérêt de travailler sur un jeu comme ça avec un autre coéditeur, c'est de déjà partager le boulot. Donc, ce qu'on a fait, parce que c'est un travail considérable, on s'est réparti les années de la manière suivante. Ils ont fait 70-80, on a fait 80-90. Ils ont fait 90-2000, on a fait 2000-2009, histoire de ne pas avoir un bloc de 20 ans et d'être un peu figé là-dedans. Et on était assez complémentaires parce qu'eux sont très fans de sport, nous moins, enfin on a trouvé quelques affinités sur la chose. Donc il y a un gros boulot de développement, un gros boulot de relecture aussi. On a fait mieux que, de mon point de vue, que l'édition Hasbro, qui était, je trouve, un peu truffée d'erreurs. Voilà, on a essayé de faire un développement honorable. On peut peut-être expliquer comment ça marche.
Mais avec grand plaisir.
Voilà. Donc ces années-là... Donc il y a plusieurs choses dans le jeu. Donc il y a des cartes. Donc sur les cartes, il y a 5 sur une carte, il y a 5 questions où il va falloir en fait retrouver les dates. Olivia Ruiz remporte 2 victoires de la musique et La Femme Chocolat est certifiée 10 de diamant. Le scoutisme fête ses 100 ans. Eric Orsona remporte le prix Goncourt pour son roman L'Exposition coloniale. Michael Phelps remporte une médaille d'or en une Olympiade et bien ainsi le record détenu par Mark Spitz depuis 1972. Comment ça se passe? On va donner en fait à chaque personne ou chaque équipe, parce que ça peut se jouer en équipe, 4 disques, chacun de ces disques couvrant 10 ans. Donc il y a un 10 70-80, 80-90, 90-2000, 2000-2010. Et chaque joueur va avoir des petits jetons. Et l'objectif va être de se débarrasser de ces jetons en trouvant la bonne date d'un événement qui sera lu à voix haute. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? On lit une carte. L'actrice Marie Trintignant est tuée lors d'une sordide dispute avec Bertrand Cantat. Désolé, j'ai tiré ça au hasard.
C'est pas ce qu'il y a de plus. C'est l'effet des mots.
C'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Donc ça c'est lu en fait collectivement pour tout le monde. Et chacun prend ses jetons. Donc si je pense par exemple que cet événement sordide s'est passé en 2004, je mets le jeton 0, c'est-à-dire que ça couvre que 2004. Si je ne suis pas très sûr du truc, je peux couvrir 3 ans en mettant un jeton 1 qui va couvrir les années 2003, 2004 et 2005.
Okay, donc le jeton 1, on le met devant l'année 2004, donc ça fait 2004 plus ou moins 1.
Exactement. Le jeton 2 permet de couvrir 5 ans et le jeton 3 permet de recouvrir 7 ans. Voilà. C'est la première équipe qui se débarrassera de tous ces jetons qui va gagner la partie. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre par exemple en fait 2004. La réponse est donnée, alors la réponse est au dos des cartes. Voilà, donc question 2, je retourne. Donc c'est en 2003. Donc là, c'était plutôt bien vu. En fait, je peux me débarrasser de ce jeton. Et tous les gens, en fait, vont pouvoir se débarrasser de ce jeton. Donc voilà, la finesse du jeu, c'est qu'il va falloir en fait, gérer intelligemment ces jetons et essayer de se débarrasser du zéro, qui est la date la plus difficile, enfin, qui est le jeton le plus difficile, puisqu'il faut trouver l'année exacte. Durée de la partie, 30 minutes. C'est assez intergénérationnel. Ça touche tous les registres, on y croit assez.
Ouais.
J'espère que l'avenir nous donnera raison.
Voilà, on verra par rapport à quelle année. L'histoire ici, quand on voit un jeu comme celui-là, évidemment, on pense à ce fameux jeu avec des camemberts dedans, parce qu'il y a des questions, sauf que là, il y a une mécanique qui permet quand même de ne pas écraser les autres avec sa culture générale.
Exactement, et on a fait beaucoup évoluer le jeu par rapport à l'édition d'Hasbro, parce que l'édition d'Hasbro, il y avait un énorme cercle qui couvrait de 1950 à 1990, puisqu'il a été édité en 2011, avec des sections en plastique dont il fallait se débarrasser, en fait. Et donc, ça pouvait se jouer qu'à 2 équipes, alors que là, on peut jouer, en fait, à, non seulement à 2 équipes, mais à 4 joueurs, par exemple. Voilà, donc on a essayé de changer un tout petit peu le système de jeu et d'améliorer le contenu.
Alors, ces années-là, donc ça sort incessamment sous peu.
Ça sort, oui, maintenant.
Okay. Et donc c'est une coédition. Il y a un auteur derrière ou bien c'est plus un objet?
Alors, l'auteur, c'est un auteur qui fait le grand écart parce qu'il a un jeu qui est très connu. C'est un auteur qui s'appelle Richard Borg et qui est aussi l'auteur de Mémoire 44.
Tout à fait.
Voilà, je ne le connais pas. C'est BlackRock qui a été en contact avec lui, mais je crois qu'il est extrêmement sympathique. C'est tout ce que je peux dire.
Excellent.
Et une règle excessivement courte.
Ah oui, effectivement. C'est du A5 recto verso et c'est fini.
Ça, on aime bien.
Voilà, ça c'est. C'est dans l'air du temps, en tout cas.
Malin.
Voilà. Ok, donc ça, c'est ces années-là, avec, en compagnie de BlackRock, et on continue avec eh bien, un jeu qui continue à être illustré par Martin Wittberg, puisque, et qui continue à aussi couvrir l'actualité. Donc si j'étais président, c'est quoi? C'est la suite de Casse-toi, pauvre con.
Si j'étais président, c'est... Comme on a eu beaucoup de succès en fait, avec le jeu Casse-toi, pauvre con, je me suis dit que ça pourrait être sympathique d'avoir un jeu qui perdure au-delà de la présidentielle. Donc au mois d'octobre, une semaine avant le Salon d'Essonne, j'ai dit ça, j'ai demandé à l'auteur, parce qu'il n'y avait aucune raison de changer le team auteur-illustrateur, donc Martin Wittberg, illustrateur, l'auteur Ludovic Maublanc. Et je lui ai dit, bah, voilà, essaye de me trouver un jeu qui puisse aller au-delà, qui soit un jeu politique, qui soit illustré par Martin. Et à Essonne, il est venu un projet qui nous a plu, et ça s'est fait directement derrière. On a été assez vite, parce qu'on ne voulait pas le sortir quand même trop tard, si possible quand même un mois avant la présidentielle française. Et sachant que l'offre sur la présidentielle est assez importante, en termes de jeux de société, c'était mieux de le sortir assez vite.
Évidemment.
Voilà, donc comment ça se passe? C'est un petit jeu tout simple. Donc l'idée, va être de constituer un gouvernement avec des people qui ont des compétences dans 6 ministères différents. Donc on a caricaturé 42 people, plutôt français, de temps en temps internationaux, qui ont une valeur de 0 à 4 dans les ministères. Par exemple, Zaya, au ministère des Sports, elle a la compétence maximale, puisqu'en fait, elle a une valeur de 4.
Surtout en football.
Voilà, surtout en football. Jean-Marie, donc il y a Jean-Marie Bigard. Alors on les a tous appelés par leur prénom pour ne pas avoir trop de soucis. Bon. Voilà, mais s'il y en avait un qui nous attaquait, moi ça ne me gênerait pas, parce que ça nous ferait un petit peu publicité.
Oui, autant continuer dans cette logique.
Voilà, donc ministre de la Culture, Jean-Marie Bigard, 0, ce qui est assez logique.
Ça c'est fait.
Voilà, ça c'est fait. En fait, voilà, il y a des gens qui ont une double compétence. Par exemple, Patrick Bruel a 0 en fait à un ministère de l'économie. Normal, un joueur de poker, oui, on peut pas lui de. Mais par contre, à la culture, on a estimé qu'il était quand même pas si mauvais que ça. En fait, on lui a attribué 2. Et voilà. Donc, il y a aussi des petits clins d'œil. En fait, Valérie Damido qui est au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc on a ministre de l'Éducation nationale, Justin Bieber, 0. Ministre de l'économie, Paris, 0, Paris Hilton. Donc voilà, c'est joliment illustré. Comment est-ce que ça se passe? On va jouer de la manière suivante. C'est un petit jeu de draft, mot qu'on va s'interdire de prononcer quand on présentera ce jeu au public classique de Cocktail Games.
Alors quel est le terme, le terme conventionnel maintenant?
C'est un jeu d'échange de cartes et de constitution de meilleur gouvernement. On va dire ça comme ça, il va falloir faire... Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au départ on a cette carte en main, il y a 6 modes de jeu qui sont précisés. Et c'est les modes de jeu, c'est rien n'est fait au hasard, hein, puisque c'est il y a un mode classique qui s'appelle si j'étais président. Après il y a des choses qui vont être remaniement, rigueur, cohabitation, pour le meilleur et pour le pire, et parité en fait.
Hein,
dans le jeu, il y a 42 people, 14 femmes, 28 hommes, d'accord? Et on va essayer de constituer le meilleur gouvernement possible. Donc si j'étais président, comment ça se passe? Donc on a ces 7 cartes en main, on en choisit une, on passe les 6 cartes restantes à son voisin, et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 2 cartes en fait, et on va choisir son gouvernement. Et ensuite on va appeler les ministères un par un, donc l'objectif c'est d'être présent si possible dans tous les ministères. Voilà, et si je ne suis pas présent dans un ministère, j'aurai moins 1 et j'aurai plus 1 par case pour une femme qui est au gouvernement.
Okay.
D'accord ? Ça, c'est le premier mode de jeu. Après la cohabitation, le but est de constituer le gouvernement le plus mauvais possible. Mm-hmm. Ça correspond assez bien, en fait. Voilà, le joueur le plus bas sur la cote de popularité marquera 3 points et l'avant-dernier 1 point.
Donc là, ce type de gouvernement, c'est décidé au début du jeu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on choisit 3. Il y a 6 modes de jeu possibles. Ouais. On choisit pas au hasard en fait.
Hein, c'est difficile.
Ouais, c'est... On en tire au hasard 3 ou on en choisit 3.
D'accord.
Et on joue un premier mode, un deuxième mode et un troisième mode. Et après, il y a un report des points sur une carte cote de popularité.
Okay.
Voilà.
Excellent.
20 minutes, voilà.
Alors est-ce qu'on est sur la brèche en se disant on va le faire en espérant qu'on en parle mal comme on en a parlé aussi mal de Casse-toi, pauvre con? Finalement, quelle a été la réaction de Cocktail Games par rapport à ça?
C'était le fait que le jeu était un tout petit peu interdit pendant une manifestation, ça a eu l'effet inverse de ce qui était probablement escompté par la municipalité en question. C'est qu'on a eu une couverture pure presse absolument formidable et des ventes qui ont explosé. Quand Martin a a parlé de ça sur son blog un matin, à 11h du matin. Le jour même, Philibert vendait 170 boîtes du jeu. Et puis on était appelé par toute la presse régionale et des choses comme le Canard Enchaîné.
C'est un point pour te dire que je l'ai retrouvé dans un zapping de Canal+, comme étant une des choses marquantes de la journée.
En fait, hein, et j'ai appris qu'on était dans le Figaro Magazine, en fait. Pour Casse-toi pauvre con, c'est quand même fort.
C'est
en fait.
Fort, c'est
pas mal. Voilà, de ce week-end, en fait. Hein, ouais, ça. Donc voilà, oui, si on peut avoir... Bah, on a fait quelques trucs un peu agressifs, même dans le choix des people. Quand Martin caricature Joe Star avec une hache, on s'expose à quelques petits soucis, peut-être, en fait. Mais voilà, l'avocate, en fait, il n'y a aucun souci. En fait, s'il y a une procédure, on la gagnera. D'accord. Parce que sur ce genre de jeu, je fais un peu de... Je réfléchis un petit peu en amont avec l'avocate pour pas faire trop de conneries quand même, en fait. Hein,
c'est, voilà, donc, parce ça veut dire que c'est...
C'est des jeux très, très sensibles. Hein.
Ah bah oui, c'est ça.
Sur Gaston Fourcon, j'ai quand même une visite du service d'information générale, donc anciennement les renseignements généraux, qui sont venus me voir parce que en fait j'ai à côté de mon bureau à Versailles, on est à 200 mètres de l'antenne du Front National. On n'a pas choisi de s'implanter là à cause du Front National.
Hein.
Voilà. Et en fait, dans un journal du Front National, ils ont choisi, ils se plaignaient que Marine Le Pen ne soit pas dans le jeu et Dominique Strauss-Kahn le soir. Et voilà, ils venaient juste de manière
dans le jeu Casse-toi pauvre con.
Dans le jeu Casse-toi pauvre con, en fait, hein, en parlant de ça. Mais ça, c'est bien, quand le jeu commence à être récupéré par les politiques, en fait, c'est une publicité terrible. Et du coup, ils sont venus juste de manière sympathique et préventive pour nous dire, voilà,
bien que Marine soit dedans pour la prochaine édition.
Non, les renseignements généraux, en fait, juste pour nous dire, voilà, vous savez, les électeurs du Front National, on ne sait pas trop comment ils peuvent réagir, etc. Bon, il y a juste Pascaline qui a un peu pré-peur, en fait, mais sans ça, il y a... voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on fait des jeux qui sont un peu à la limite, etc. C'est aussi un moyen, voilà, d'avoir un peu de presse. Tout en faisant quand même des bons jeux. C'est-à-dire, Ludovic a une qualité, c'est que, ce qui n'est pas le cas tous les auteurs de jeux, c'est qu'il est excessivement bon sur des jeux de commande, en fait. Et le jeu n'est pas honteux. On n'a pas fait un jeu de cette famille, voilà, parce qu'on aurait pu aussi, en fait. Hein, on n'aurait pas été très fiers.
Non.
Ouais.
Non,
voilà.
Non, autant parler d'un produit correct.
Oui, c'est sûr. Mais donc, on en est là, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le jeu de société intrigue? À un point où on se dit, oula, il se passe quelque chose. Parce que pour que les renseignements généraux arrivent en se disant, bon, ce n'est qu'une boîte métal avec des cartes de jeu, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans.
Bah oui, mais c'est une très forte exposition. Voilà, on a quand même repris en fait, la phrase qui est prononcée par le chef de l'État. C'est pas neutre, en fait. Hein, on savait qu'il y avait un petit peu de risque, en fait. Voilà, j'ai pas eu de contrôle fiscal pour le moment, ça viendra peut-être. Mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
C'est une manière d'aborder ce genre d'actu-là aussi.
Oui, et alors ce qui est juste décevant, c'est qu'on a eu des contacts formidables avec le journal du dimanche, Europe 1, etc. Et moi, je pensais que ça serait une porte d'entrée pour parler un peu du jeu moderne, etc. Et ils s'en foutent.
Oui,
complètement, en fait.
Ça reste encore un peu tôt, je pense.
Voilà, ça reste un peu tôt, mais voilà, au moins on parle du jeu de société.
Oui, tout à fait.
Voilà.
On le voit autrement qu'un memory ou qu'un jeu de cette famille, surtout dans ce cas-là. Parfait. Donc, si j'étais président, Ludovic Maublanc, Martin Wittberg avec ses patates. Alors, et donc.
Le jeu suivant, ça va être un petit jeu qui s'appelle Bubble Talk.
Ouais.
Donc, Bubble Talk, qui est aussi dans le même genre de boîte que ces années-là.
Oui, parce que ces années-là, il est en boîte carton et Bubble Talk aussi, parce que. C'était compliqué sur ces deux jeux en fait, d'arriver à un prix de vente publique de 30 euros en étant en boîte métal. Donc voilà, donc on a décidé de transgresser un peu nos règles habituelles en faisant du carton. Voilà, ça ne se reproduira pas.
On ne le fera plus. Donc c'est un jeu aussi assez rapide, 25 minutes, 8 ans et plus. Et donc on voit sur la boîte des photos avec des phylactères.
Alors oui, alors Bubble Talk, c'est vraiment un jeu très simple. Très intergénérationnel et dont les règles peuvent s'expliquer en trois phrases et tout le monde peut jouer à égalité. Ça me plaît bien sur une idée qui n'est pas d'une énorme originalité, mais c'est un jeu dont la constituante principale est une série de 150 photos, donc 75 cartes avec des photos de chaque côté qui sont des photos. Toujours, généralement drôle, mais pas vulgaire, avec beaucoup d'enfants, d'animaux, des adultes de temps en temps. Alors on peut peut-être prendre une carte en fait au hasard pour Voilà, par exemple, on voit... qu'est-ce que c'est que ça ? Une autruche, en fait, qui est prise en gros plan par un appareil photo, ou... Voilà,
une grand-mère qui vient de gagner un prix de sport, apparemment, avec une coupe en main. Ah non, de Pom-Pom Girl, voilà.
Voilà,
reine des cheerleaders.
Voilà, un vélo sur un arbre tout en haut, et puis avec un... les jambes d'un enfant qui pendent, etc.
Donc c'est des photos qui, à chaque fois, présentent une situation, et on aurait envie peut-être de s'exprimer en rajoutant dans la bouche d'un des personnages qui est sur la photo quelque chose.
Voilà. Mais tu peux expliquer le jeu, du coup.
Voilà. en trois phrases. Voilà. Et donc on a des cartes, effectivement.
Alors donc on prend une carte, hop, par exemple celle-là. Ouais. Donc là on a un chien.
Énorme chien.
Un énorme chien, ouais. Un caniche grand format.
Tout à fait.
Qui danse avec une fille qui doit avoir une douzaine d'années, on va dire ça comme ça.
Et c'est une photo.
Et c'est une photo. Chaque joueur va avoir des cartes légendes, va avoir sept cartes légendes en main. Qui vont donner des possibilités de légender la photo. Donc, par exemple, avec un texte écrit.
Ouais.
Première carte, là, tu es presque un peu trop branché.
Ouais.
Je ne retournerai jamais en prison.
Ouais.
Comment
ouais.
ça va ? J'aurais dû choisir la porte numéro 2, celle-là n'est pas trop adaptée à l'image. Je me demande quand ma femme va rentrer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans mes céréales ? À vrai dire, c'est toi qui as commencé. Donc, c'est des phrases toutes simples qui sont un peu passe-partout.
Oui, mais qui, couplées à la photo...
Peuvent être assez drôles. Donc, ouais. On pose une carte au centre. Tous les joueurs, à l'exception du juge, vont poser une carte, la placer face retournée.
Ouais.
Et le juge va lire les 4, 5, 6 cartes, suivant le nombre de joueurs qui sont posés, et va donner le point à la légende la plus originale.
Okay.
Le juge change après chaque tour de jeu, et c'est le premier qui a 5 cartes qui donne la partie.
Voilà. Simple, efficace.
Voilà, simple, efficace, on y croit assez, hein, parce que c'est...
Oui, tout à fait.
On pense que ça devrait fonctionner.
Ouais. Ça, c'est vraiment un générateur d'ambiance tout à fait correct à terre.
C'est un truc, il y a un truc important, c'est un jeu sans auteur.
Voilà, oui, c'était ma prochaine question, effectivement.
Voilà, donc, c'est du jamais... Enfin, on n'a jamais vu ça. En fait, c'est quelqu'un sur Trick Track qui m'avait envoyé une information sur ce jeu. Donc, j'ai regardé sur Amazon, j'ai commandé le jeu. Et puis voilà, j'ai joué au jeu, j'ai trouvé ça terrible. Et donc, c'est une société de Hong Kong qui me vend juste des boîtes.
D'accord.
Voilà, donc j'ai pas de droit d'auteur à payer. C'est très bizarre, en fait. Hein, voilà, donc on a refait complètement la boîte par rapport à la boîte américaine qui était assez laide. Voilà, en essayant de faire quelque chose qui puisse être compris, en fait. Hein.
Tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? Donc, il n'y a pas d'auteur, c'est la société produit le jeu.
La société, voilà, c'est un fabricant,
oui.
Me vend des boîtes, point.
Avec les cartes dedans et
oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire, j'ai refait...
C'est un producteur.
J'ai pas changé les cartes.
Oui.
J'ai repris les cartes. Et j'ai changé, par contre, le format de boîte qui n'était pas du tout adapté au marché français, en fait.
Hein, voilà. Pourquoi pas, si le jeu fonctionne et qu'on s'amuse bien.
Écoute, oui. Si jamais il est nominé à Cannes, on va lui trouver un auteur. Hein.
Ça ira quelqu'un sur la scène.
Voilà, un de mes amis anglais ou quelque chose comme ça.
Oui.
Voilà.
Ça devrait aller.
Voilà pour Bubble Talk.
Ok. Yes.
Alors,
on continue avec une boîte en métal format Dweebies un peu plus épaisse ou format...
C'est la même taille, en fait.
C'est la même taille,
voilà.
Oui, effectivement, mais en noir, ça fait plus...
C'est la même taille. C'est un jeu qui s'appelle Mystery Party. Enfin, c'est une collection qui s'appelle Mystery Party, mm-hmm. qui est appelée, si tout fonctionne comme on le souhaite, à avoir plusieurs titres. Et le premier titre, c'est Meurtre sur le Nil. Donc, l'idée, c'était que... Moi, je suis assez client de jeux de Murder Party. J'ai beaucoup joué à des jeux... Spears avait publié à une époque, Schmitt aussi. Et ces choses-là, qui datent d'une dizaine d'années, ont disparu du marché, à mon avis, pour deux raisons. Parce que, un, c'était un peu cher, un peu gros. Et deux, il y a plein de scénarios gratuits sur Internet. Mais j'aimais bien, en fait, le genre d'atmosphère que ce type de jeu créait. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire un jeu d'enquête policière qui soit conditionné dans une petite boîte, simple dans son fonctionnement, qui mette les joueurs à égalité, qui ne soit pas trop basé sur l'imagination quand même, pour que tout le monde soit à égalité sur la chose. Je me suis dit ça il y a quelques années, et j'ai demandé en fait à Guillaume Montiage, qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs scénarios de Murder Party, et qui, à mon sens, est le bon spécialiste français de la chose, de pouvoir nous écrire un scénario là-dessus et en lui disant et en lui donnant une mission de direction de collection sur la suite. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire un one shot, mais c'est de faire en fait plusieurs titres. Donc il a écrit le premier.
Donc, Guillaume Montiage, juste pour info, donc c'est le co-auteur de Nefertiti. Et qui est le co-créateur de la radio des jeux aussi.
Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, j'avais oublié de le présenter, mais c'est important. Donc comment ça se passe en fait à l'intérieur de cette boîte? On a des cartes, on va dire, d'un format à peu près équivalent à celui de Dixit. Rien à voir avec Dixit, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'informations et que c'était malheureusement pas possible dans un format jeu de poche. Alors, à moins de fournir une loupe en fait avec chaque boîte, ce qui aurait été un peu compliqué.
Des cartes pliables.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de clé en main. Alors c'est un scénario donc, qui se déroule en 1937 en fait, sur une croisière en fait, dans le Nil, qui se joue à 8 personnes, où il y a un certain nombre de rôles qui peuvent être des rôles à la fois féminin et masculin. L'objectif du jeu, c'est que chacun va se voir affecter un rôle assez haut en couleur. Ça sera affecté de manière préalable sous forme en fait, d'envoi d'invitations qui sont dans la boîte, qui peuvent être téléchargées en fait, sur notre site, de manière à ce que les gens puissent s'investir dans le personnage, et au moins de manière vestimentaire.
Ouais.
Voilà. Donc on a, par exemple, ici, Elliot Hastings. Donc il y a 8 personnages. Oui. Elliot Hastings est le tout jeune fils de Roger Hastings, âgé d'à peine 18 ans. Elliot est un jeune homme énergique que la mort de son père a froidement choqué. Pour vous costumer, blablabla, blablabla. Oui. N'oubliez pas que l'action du jeu se passe en 1937. Une invitation. Donc il va être envoyé, entre guillemets, par le pseudo-maître de jeu. D'accord. Et qui va définir une date donnée. C'est quelque chose qui se joue généralement pendant un déjeuner ou plutôt un dîner. Oui. Les gens arrivent sur place, voilà, ils vont recevoir en fait une information, ils vont recevoir une image de leur personnage avec un plan du bateau derrière.
D'accord.
Bon, ça on verra après.
Ouais.
Et le jeu, et il y a un cas général qui va être lu par le maître de jeu. Qui va donner plus de précisions sur,
Le démarrage.
Le démarrage de la chose. Et ensuite, chacun va recevoir une information biface avec des choses pour se présenter aux autres joueurs.
D'accord.
Âgé de 40 ans, voilà, près de 18 ans que je suis la dame de compagnie de Lady Ashton. Je suis un peu son infirmière également, blablabla. Mm-hmm. Et de l'autre côté, des informations à ne dévoiler que lorsque l'on est interrogé sur le sujet.
D'accord.
Donc, les gens vont se présenter. Là, un des joueurs va découvrir qu'il est ou qu'elle est, en fait, l'assassin.
Mmh.
Voilà, il a le droit de mentir.
Les joueurs ne le savent pas en arrivant.
Non, les joueurs ne le savent pas en arrivant, en fait. Hein, c'est...
Le joueur qui est l'assassin ne sait pas qu'il est l'assassin avant d'arriver.
Ne sait pas avant d'arriver, tout à fait. Et ensuite, c'est un jeu qui se déroule en 4 actes. Et les actes se présentent exactement de la même manière. Donc là, c'est vraiment une demande de ma part, en fait, à Guillaume, par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. C'est je voulais qu'on soit sur des scénarios croisés avec une question à poser, une réponse à donner.
Mm-hmm.
Pour tous les participants, donc les gens vont recevoir, en fait, une carte à chaque acte, où on va leur dire, Rose Hastings va vous interroger, répondez-lui à l'aide des éléments suivants.
Okay.
D'accord ? Interrogez maintenant Dominique Reichmann.
Okay.
Ce qui veut dire que quelqu'un qui est un peu perdu dans ce genre de jeu... ne fout pas par terre la partie. C'est-à-dire, dans le pire des cas, il peut simplement lire ce qui est écrit sur sa carte, et ça fonctionne quand même. Voilà. Donc, c'est conseillé de donner un peu de couleur à son personnage, si on a la possibilité. Donc on fait ça à l'acte 1, donc c'est vraiment des échanges, en fait, chaque acte va durer une vingtaine de minutes. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Et à la fin de l'acte 4, chacun fait des hypothèses sur l'éventuel le meurtrier, donc qui, comment, pourquoi, avec qui. Et ensuite, il y a une solution générale qui est lue.
D'accord.
Voilà. Prix de vente, 13 €. Rejouabilité, 0.
Oui.
Mais ça coûte 1,70 € par tête.
Oui.
C'est-à-dire probablement moins cher que le plat de viande qui sera servi ce soir-là.
Tout à fait.
C'est un bon argumentaire.
Donc voilà.
OK.
Et maintenant, on essaie de parler un peu plus des auteurs.
Ouais. Là, il y a une fiche de la même.
Voilà, on a fait une fiche aussi avec une caricature de... Guillaume Montiage, en fait, et voilà, qui explique un petit peu ce qu'il fait, etc.
Fait.
Voilà, c'est l'illustrateur, c'est Bonnie.
Oui.
Voilà, et je trouve qu'il a fait un travail vraiment très, très chouette.
Ouais, l'ambiance est assez bien rendue.
Très chouette, et c'est important sur un jeu où il y a beaucoup de texte comme ça, en fait, que ça soit agréable à regarder et aussi à lire.
D'accord. Et donc,
Ça, c'est une gamme. Effectivement, il y a plusieurs scénarios qui vont sortir.
Alors oui, enfin, sous réserve du succès sur le premier, mais ouais. je suis assez optimiste parce que Killer Party chez nous marche assez bien, même si ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, on est quand même dans une veine policière. Ouais. Et je suis assez convaincu qu'il y a un marché pour ça. Et les boutiques ont tendance à me donner raison. Je leur en ai beaucoup parlé en amont, etc. Ils sont assez chauds sur ce genre de produit. Donc je pense que voilà. Et l'idée, c'est de faire écrire après des scénarios par d'autres personnes. De façon à ce que voilà, la gamme se perpétue. Et voilà, un ou deux titres par an me semblerait assez raisonnable.
Et on est dans cette logique de bluff party, de murder party, de killer party, de toutes ces choses qui sont à cheval.
Party, généralement, au bout d'un titre de jeu, généralement, ça se vend plus.
Oui.
Chez moi, au bureau, ils m'empêchent tous de mettre party à la fin de chaque jeu. Parce que ça fait un peu...
On va faire Chabirin de partie, on va faire. Ouais, Et donc, dernier jeu pour cette séquence-ci, un jeu qui s'appelle Illico.
Oui, Illico. Alors, on avait un jeu qui s'appelait Illico Presto qui s'est arrêté. Tout à fait. Et puis donc, du coup, celui-là, on a cherché un nom, on n'a pas trouvé, on s'est dit, Illico.
Voilà. Voilà. Et donc le Illico, l'Illico Presto à la base, c'était une histoire de jeu avec des mots à l'envers, c'est ça ?
Non, pas du tout. Illico Presto, c'est le deuxième jeu dont je suis l'auteur, mais dont je revendique pas trop la paternité. Voilà, où il y a une carte avec un mot qui est où c'est écrit amour, et il y a 5-10 titres d'œuvres cinématographiques, musicales, littéraires, artistiques. Voilà, c'est un jeu qui fonctionnait assez bien, mais qui était un peu daté.
Oui.
C'est-à-dire que c'était 13 années 80, ça correspond à...
Voilà, au démarrage de Cocktail Gay.
Voilà, et puis un peu à mon âge aussi, en fait. Et voilà, c'est un jeu qui a fonctionné, hein, qui a vendu deux tirages, mais à un moment donné, il faut aussi faire du ménage dans la collection.
Voilà, deux tirages, c'est à chaque fois 3000 boîtes ?
Non, ça dépend. Généralement, au départ, c'était plus... Quand on fait du contrario ou autre, en fait, on est sur 5000 boîtes, du jeu de poche aussi. Quand on sent un peu le jeu, on peut monter un peu la sauce, c'est-à-dire passer à 7000 boîtes. On imprime les jeux de poche par 50 ou 70 000, voilà, parce qu'on a des demandes étrangères, des tirages, des nouveautés, des retirages, etc.
Donc un tirage sur ces jeux-là, c'est 50 000 ?
Non, un tirage. Non.
Oui.
On fait ce qu'on appelle une impression en amalgame.
Oui.
Donc une impression en amalgame, c'est-à-dire que dans ce format jeu de poche, si demain je demande à vos fabricants de me fabriquer 2000 jeux, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait du volume, en fait. Et donc on va amalgamer plusieurs titres, des nouveaux titres, on va faire du retirage de jeux qui fonctionnent bien, et on va faire aussi, là-dedans, on va intégrer nos jeux pour nos distributeurs étrangers.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est dans un lot de 50 000 dans lequel il y a plusieurs jeux.
50 à 70 000, oui. C'est,
voilà, bien.
Fois par an.
Ok, donc Illico, il y a un sablier.
Oui, il y a un sablier.
Et la boîte est dure à ouvrir.
Oui, c'est une boîte, prototype. Donc comment ça se passe ? Donc c'est un jeu qui se joue en équipe et le sablier est important parce que ça va gérer le temps entre les différentes équipes. Donc on met au départ le sablier, donc qui n'est pas du tout à la bonne taille, au milieu en fait de deux joueurs qui vont jouer en équipe. D'accord ? L'idée du jeu c'est quoi ? C'est qu'on a d'un côté en fait deux mots, par exemple un dragueur et un sportif. Et un point commun entre les deux. Il va falloir retrouver un coureur, en fait. Hein. Un détective et de la laine, il va falloir retrouver la filature. Okay. Voilà, un angle et une prise. Donc, un angle et une prise. On va voir s'il y a du cerveau.
entre les deux branches du casque.
Un angle et une prise.
Un angle et une prise.
Voilà.
Aucune idée.
Toi qui fais de la photo, c'est là, il faut retrouver la vue.
Okay, oui,
angle de vue, prise de vue. Ouais. D'accord. Voilà, les échecs et le guet, il faut retrouver la tour, etc.
D'accord.
Il y a d'un côté. D'une carte, sur un côté d'une carte, il y a les deux mots. De l'autre côté, il y a la réponse.
Oui.
D'accord ? Les gens sont en équipe. La personne qui lit deux mots, c'est celle qui doit trouver la réponse. La réponse va être validée par le joueur qui est en face de lui, puisqu'il aura la réponse face à lui. On tire une carte, on tire un numéro. Mm-hmm. On essaye de trouver la réponse.
Oui.
D'accord ? Si on la trouve, à ce moment-là, on repasse le sablier dans l'autre sens.
D'accord.
Et c'est au joueur de l'autre équipe.
Okay.
Voilà, quand le sablier tombe d'un côté... la personne a perdu la manche. Ça se gagne en trois manches.
Okay.
On a le droit de passer une carte en fait à son tour de jeu.
D'accord.
Voilà le principe de la chose. Donc il y a une cinquantaine ou soixantaine de cartes avec 12 mots en fait sur chacune. Ça fait à peu près 700 mots en fait. Hein,
ça prend un temps fou à développer quand même toutes ces phrases.
Oui, c'est sympa. Mais en fait on avait un auteur qui est très bien. C'est quelqu'un qui s'appelle Julien Santis. Mmh. C'est l'auteur de Déclic.
Okay.
Voilà. Et qui vraiment nous a proposé ça. Ça nous a beaucoup plu.
Ouais.
Voilà. C'est encore sous format prototype.
Encore sous format prototype avec une illustration qui est quasi définitive. Ouais. Et là aussi, on est sur une gamme slim. Je l'aurais bien mis dans un jeu de poche, mais j'ai besoin d'un sablier qui est l'élément crucial en fait sur le jeu, ce qui donne un peu sa pêche. En fait.
Ouais. Parfait. Voilà. Alors, dernière question. On est à l'approche du Festival de Cannes. Il y a cette initiative de Cocktail Games par rapport à son prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est l'histoire de ce prix-là ? Parce qu'on voit les images arriver sur Facebook, alors, ça commence à en parler. Donc, quelle est donc cette histoire-là ?
Alors, c'est l'histoire d'une frustration.
Oui.
On va dire les choses clairement.
Non, c'est le but de ma question.
Voilà. C'est que, depuis un certain nombre d'années, on fait des bons jeux de communication qui fonctionnent bien, qui plaisent à nos clients, que ce soit nos clients directs ou indirects, c'est-à-dire les boutiques et les clients finaux. Voilà, et on a toujours été un peu ignoré par les prix. C'est-à-dire qu'on a été souvent nominé, jamais primé. Il y avait toujours une bonne raison, c'est une réédition. Alors, une réédition d'un jeu qui n'a pas été édité depuis 20 ans, moi, pour moi, c'est un nouveau jeu, mais bon, c'est pas très grave. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit, bah, puisqu'ils ne veulent pas nous donner des prix, on va s'en donner nous-mêmes, en fait.
Hein,
voilà, donc on a démarré il y a 3 ans, et l'idée, c'était de faire d'abord un prix pour nos jeux, donc c'est donc qui s'appellerait le Cocktail d'or. Donc on a fait ça une première fois, il n'y avait que le Cocktail d'or, en fait, qui avait été donné, en fait, il y a 3 ans, enfin, il y a 2 ans, en fait, à Tokyo Train. Et puis on s'est dit, ben, finalement, on a une gamme assez large, puisqu'on sort entre 9 et 14 jeux par an. Donc la sélection couvre toute notre année éditoriale 2011 passée. Et puis on s'est dit, pourquoi pas élargir un peu le prix. Alors la première année, c'était un trophée que Roberto m'avait bricolé, etc. Puis on s'est dit, un vrai prix, un vrai trophée. Et donc on a demandé à un petit figuriniste sympathique, en fait, de nous faire des jolis trophées. Et on a fait, on a sorti ces 3 prix, le cocktail d'or, le cocktail d'argent et le cocktail de bronze. Voilà, avec des prix massifs parce que... Je trouve que Cannes donne un simple diplôme, nous on veut faire mieux. Voilà. Et donc la sélection se fait de manière totalement didactoriale.
Ouais.
C'est-à-dire je fais ça en fonction des ventes et des affinités que j'ai avec les auteurs. En fait.
D'accord. Hein, voilà. C'est vraiment n'importe quoi.
Bah, c'est n'importe quoi, mais
c'est voulu.
Mais c'est voulu, en fait. Hein,
ouais,
voilà. Et donc déjà sont connus parce que vont être délivrés le cocktail d'or. Cocktail d'argent et cocktail de bronze. Et donc, il y a 9 nominés, les 9 jeux qu'on a sortis dans l'année.
D'accord.
Et puis, je me suis dit, on va pas assez loin. Ben oui, mais bon.
Non, mais attends, comme disait l'autre, tant qu'à faire une connerie, autant la faire en musique.
Voilà. Donc, non, mais c'est pas une mauvaise opération de communication. C'est un petit côté sympathique,
oui,
etc. Enfin, c'est un petit clin d'œil sur le truc. Et donc, on s'est dit, non seulement on va distribuer notre propre prix, mais on va aussi distribuer le prix du... meilleur jeu, meilleur party game de l'année.
D'accord.
Le cocktail d'or étant le prix suprême. C'est-à-dire que les meilleurs jeux de l'année, c'est d'abord nous.
Bien sûr.
Voilà.
Ça tombe
mais il reste quand même quelques miettes pour les autres,
oui,
en fait.
Oui. Hein,
et donc, j'en ai parlé, parce que je ne voulais pas faire ça tout seul, j'en ai parlé à Thomas Vlachek, qui a...
Monsieur Twinit et Jungle
voilà,
Speed,
Monsieur
par exemple.
Monsieur Twinit, Jungle Speed, mais qui a créé enfin, une sorte d'association informelle, la Ligue intégriste des jeux d'ambiance. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça peut t'intéresser d'être partenaire de ce prix ? Et j'en ai parlé aussi à Bonnie le Lunonaute, qui est quelqu'un de sympathique. Et voilà, et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, on va le faire. Donc on a torché un logo vite fait, mais qui sera refait. Et puis on s'est dit, on va faire une liste en fait, de party games. Donc on a réfléchi ensemble, on a échangé quelques mails, on a eu chacun quelques droits de veto qu'on a utilisés. Et c'est pas évident hein, quand même de choisir de manière un peu consensuelle les trucs. Et on a sorti une liste de 6 jeux qui sont tous nominés pour le jeu de l'année. Canal Nouveau par rapport au jeu de l'année Canal Historique.
D'accord.
Et dont la remise des prix sera faite en fait pendant le salon de Cannes.
Mais la sélection finalement se fait aussi d'une manière dictatorielle ou...
Non. Là, ça se fait de manière collégiale entre nous trois.
Oui.
Non, là, j'impose rien du tout. Voilà, il faut que ça se passe quand même de manière sympathique.
Un peu de démocratie de temps en temps.
Voilà, un peu de démocratie. Et bon, c'est quand même une sélection qui a de la gueule.
Oui.
Voilà. Et je tiens à féliciter en fait King of Tokyo, qui fait la prouesse d'être à la fois dans le jeu de l'année Cali Historique et le jeu de l'année Lijda Cocktail Games en fait. Hein, c'est, donc voilà, le gagnant sera connu en fait dans quelques semaines.
Voilà, c'est un suspense grandissant. Mais donc, tu l'as dit, bon, sous découvert un peu farfelu et assumé, évidemment, il y a un effet de communication et on, est-ce que tu vois un effet de ça? Ou est-ce que
rien,
le public s'accroît?
Je sais par exemple qu'il y a, sur les nominés, il y en a un certain nombre en fait, qui vont utiliser en fait, notre logo, quoi, pourquoi pas. Non, ça a un effet, c'est un capital sympathie vis-à-vis d'une population quand même plutôt avertie, on va dire ça comme ça. Hein, c'est pas, voilà, et on veut pas entrer en frontal avec le jeu de l'année parce qu'il n'y a pas lieu en fait. Hein, c'est,
La démarche n'est pas la même,
c'est un prix clin d'œil. Ouais, voilà, c'est remis avant le 2 heures avant le prix principal. Et c'est juste l'occasion aussi de passer un bon moment avec des gens qu'on aime bien.
Le fait d'utiliser le logo pour le mettre finalement cocktail d'or par rapport à entre guillemets quelqu'un qui n'est pas au courant de la démarche pourrait quand même considérer que c'est un jeu qui a été primé.
Mais pourquoi pas?
Oui.
Évidemment, pourquoi pas.
On s'en portera pas plus mal en fait. Hein,
c'est une forme d'auto-publicité qui n'avait jamais été exploitée jusqu'à présent.
C'est ça, mais c'est très transparent, c'est-à-dire qu'on dit que voilà, c'est nos jeux, c'est nous qui décernons ça, etc. Et cette année, on fait un cocktail d'or, on fait un prix vraiment, un truc, un énorme. Enfin voilà, il faut que le lauréat soit content en fait.
Ouais, fait.
Voilà.
Bien, merci Mathieu. Une année riche en événements. Bon festival de Cannes, puisque merci. On enchaîne. Tu fais New York aussi?
Oui.
Ok. Voilà.
Donc début d'année en fanfare comme d'habitude.
New York, c'est important parce que l'année dernière, j'ai quand même récupéré deux jeux. Un jeu qui va s'appeler Super Lipopex, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler, qui s'appelait Curses à l'origine.
Ouais.
Et puis un autre jeu qui s'appelle Rings of Fire, qui est vraiment le jeu de pochetron le plus lamentable de la planète. Mais il n'y en avait pas en France, en fait, personne n'a osé.
Ouais.
Et donc là, je me suis vraiment blindé avec l'avocate, parce que c'est très très sensible, en fait, hein, l'alcool.
C'est un jeu qui pousse à boire.
Oui, mais ça ne sera pas décrit du tout comme ça sur la boîte.
Voilà.
Voilà,
quand on est bourré, qu'on se rend compte qu'il faut boire.
Et donc c'est un jeu qui va s'appeler Happy Hour. Et donc dont on est en train de démarrer le développement actuellement, mais c'est signé.
Tu sens cette après le casse-pas pauvre con, etc. Tu as envie d'un peu de te mettre en danger?
Non, pas se mettre en danger, mais faire un peu du jeu un peu. Mais là c'est un peu moins consensuel. Mais là c'est l'opération la plus risquée parce que bon il y a beaucoup de jurisprudence.
Ouais.
Donc il faut juste qu'on fasse attention. Mais s'ils ont réussi à le faire dans un pays aussi puritain que les États-Unis. Sans avoir des problèmes, je pense qu'on doit pouvoir y arriver en France. Il y a quand même un peu plus d'ouverture d'esprit.
Et oui, à suivre alors. Voilà. Parfait. Merci Mathieu.
Merci.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.